Sinon, c'est trop long. D'accord. Bon, eh bien, d'abord, merci à tous les deux pour ces deux exposés si riches et différents, et en même temps qui ont quelques points de recouvrement quand même. Donc, merci à Sol d'avoir situé donc la question qu'est-ce qu'un analysant à l'aide de quelques repères historiques, hein, donc chez Freud et Lacan. Évidemment, c'est tout à fait bienvenu en cette première soirée, et c'est de toute façon complètement intéressant pour nous de les retrouver. Donc, à l'aide de ces références, donc tu montres donc qu'en passant de psychanalysé à psychanalysant, donc il y a un changement majeur qui s'opère. Et donc, tu évoques l'analysant donc comme celui qui parle, celui sur lequel s'exerce, celui qui s'éprouve, hein, sur lequel s'éprouvent donc les effets de la parole, tu disais. Et aussi, c'est un sujet donc qui assume la position particulière donc d'avoir un désir de savoir. Hein? Donc le psychanalysant, donc Frédéric l'a dit, c'est un substantif, mais qui part d'un participe présent actif. Donc tu nous montres, je crois, que c'est bien celui, le psychanalysant, qui participe au présent et activement, c'est bien celui qui travaille. Hein. Donc la première question, c'est quel est le plus donc nécessaire pour que donc celui qui est naturellement susceptible de transfert, hein, tu as repris ce terme, naturellement susceptible de transfert, donc pour qu'il s'engage dans le travail qui va le faire qualifier d'analysant. Donc tu as cité le désir de savoir, mais dans les conditions, est-ce que c'est suffisant? Et en particulier, je voudrais que tu reviennes sur l'intervention de l'analyste et peut-être déplier donc ce qui peut se passer ou ce qui doit se passer, je ne sais pas comment le dire, au cours de ce temps très particulier des entretiens préliminaires. Et pour deuxième question, je te demanderai, voilà, donc tu lances ou tu relances le débat de la psychanalyse, donc pour hors de la névrose. Donc tu poses la possibilité d'un devenir analysant, donc hors de la prédisposition névrotique au transfert. Hein, c'est comme ça que tu le dis, je crois. Probablement, on est beaucoup à partager l'idée du travail possible. Et même l'idée du travail de nature analytique avec un sujet psychotique. Mais ma question, donc, sur un analysant devenu analysant, c'est-à-dire, pour reprendre donc tes termes, un analysant qui n'était pas naturellement, selon donc ta définition, jusqu'où, selon toi, est-il susceptible de mener son analyse? Et est-il susceptible jusqu'à dégager un désir d'analyste, par exemple? Est-ce que, bon, je ne sais pas si tu n'es pas obligé de répondre, hein, mais peut-être un petit peu quand même. Voilà. Tout en ayant noté que, à coup sûr, le terme de naturel est toujours un peu étonnant dans le cas, parce que la nature, quand on s'attache à définir toutes les conséquences de l'impact du langage, c'est toujours un petit côté surprenant. Mais c'est quand même voilà. Donc Frédéric. Donc Frédéric, il nous propose volontiers des interventions denses, hein? Et il a coupé, mais quand même. Dense, et je voulais dire un peu difficile, mais il aime pas qu'on dise ça. Bon, donc je vais pas le dire. Mais disons qu'on n'a pas échappé ce soir à une intervention dense. Voilà. Cela dit, on en demande et on en redemandera. Donc voilà. Donc peut-être que tu réponds en partie à ma première question à Sol à propos des ingrédients donc nécessaires à faire l'analysant. Et donc, pour ta part, donc, à la supposition de savoir, tu ajoutes la volonté de se déprendre de ce que cette supposition charrie de surestimation. Alors moi, j'aimerais bien que tu déploies un petit peu ce point, donc que tu lis au couple désir-pulsion et défense-résistance. D'autant plus que j'ai été intéressée par ce que tu dis de la passe, donc à propos d'enfants. Et donc en retenant là, donc la disposition, tu fais à se séparer du transfert. Hein. Donc il me semble que cette idée là sur cette disposition, donc ça résonne avec ton idée du départ sur se déprendre des conséquences de la supposition de transfert. Et donc que d'une certaine façon, la fin est en germe au début de l'expérience. Voilà, c'est pour ça que je voudrais que tu reviennes sur ce que tu as dit à ce propos. Et puis, une deuxième question. Donc, tu demandes si pour un enfant, parler pour ne rien dire, c'est pas exactement parler pour dire. Et donc, moi, je te demande à quelles conditions on peut poser cette équivalence. C'est-à-dire, est-ce que c'est toujours le cas ? Ou est-ce qu'il faut quelqu'un pour acter que ce qui a été dit l'a été? Ou est-ce qu'il faut que se produisent des effets liés à la parole? Donc à quelles conditions parler pour ne rien dire met l'enfant en position d'analysant? Hein? Voilà, et puis pendant qu'ils vont commencer à répondre à ces questions-là, vous allez préparer les vôtres.
Peut-être ça. Tu peux essayer. Alors, je suis partie en fait, je vais dire un peu comment j'ai procédé. J'ai reçu cette question, qu'est-ce qu'un analysant ? Et j'ai essayé de penser ça d'abord à partir de ma pratique. J'ai constaté que parmi les personnes qui viennent me parler, je ne les appelle pas toutes, je ne considère pas que toutes ces personnes ce soient des psychanalysants. Et parmi celles qui sont des psychanalysants, dont je parlerai comme psychanalysants, pas toutes ne sont des sujets névrosés. Et donc je me suis dit que c'était une bonne occasion pour essayer de rendre compte de ça, de penser ça. C'est ce que j'ai essayé de faire ce soir, avec plus ou moins de bonheur. Alors, la première question que tu me poses pointe effectivement un des points sur lesquels je me suis le plus fortement appuyée. Entre autres parce que c'est Lacan lui-même qui nous a habitués, je dirais, à nous méfier des références à la nature, et ce ne l'empêche pas d'employer, j'allais dire allègrement, mais c'est pas ça, c'est pas que ce soit allègrement, c'est que ça, c'est de façon extrêmement significative et efficace, cet adverbe naturellement. Hein, quand il parle du névrosé comme étant un sujet naturellement psychanalysant, parce que le transfert est déjà là avant toute analyse, étant donné cette coalescence entre la structure de la névrose et le sujet supposé savoir. Et donc je me suis appuyée là-dessus pour considérer que il s'agit donc d'une distinction à établir, à essayer d'élaborer entre ce qui paraît naturel, ce préalable naturel favorable et les cas où le préalable naturel n'est pas là. Hein. Alors, qu'il en faille plus, bien sûr, je l'ai dit, tu l'indiquais, mais il en faut, alors, je pourrais dire qu'il faut le désir, le fait d'être naturellement psychanalysant, que le transfert soit là avant toute analyse, ne veut pas dire pour autant que le sujet désire faire une analyse. C'est ce qui met à l'épreuve, disons, lors de la, des entretiens préliminaires, me semble-t-il. Hein? Donc la demande se formule et on attend, l'analyste attend, me semble-t-il, qu'il y ait un signe, disons, du fait que le sujet de l'inconscient est au travail. Hein? Alors, je me suis permis d'évoquer l'intervention d'une collègue qui présentait un travail là-dessus. Je ne sais pas si elle est là ce soir. Il s'agit de Maricela Zurbarán. Non, elle n'est pas là, mais je crois que ça va être publié, donc tout le monde pourra le lire. Qui était un exemple très, très clairement exposé de la façon dont, au cours de ses entretiens préliminaires à elle, assez tôt d'ailleurs, au cours, je crois, du troisième ou quatrième... tu étais là, tu l'as entendu aussi, du troisième ou quatrième entretien, une intervention de l'analyste l'avait complètement chamboulée, elle était dans tous ses états, elle n'a pas donné des détails, mais bon, il y avait quelque chose de l'ordre d'un passage à l'acte ou d'un acting out, de s'interroger là-dessus. En tout cas, la division du sujet était certaine et elle a très bien expliqué comment ça l'avait amené à, effectivement, se mettre au travail de l'analyse. Hein? Donc il faut aussi bien, je le pense, oui, il faut au cours des entretiens préliminaires, hein, sinon une intervention de l'analyste, quelle qu'elle soit, hein, et la réponse qui va avec, qui manifeste que l'effet est celui de division et de mise au travail de l'analysant. Alors, pour ce qui est donc des analysants hors prédisposition naturelle, c'est comme ça que tu reconnais ce que je disais. Jusqu'où ça va, j'ai essayé de dire jusqu'où ça peut aller dans l'expérience que j'en ai. Je trouve, je disais que ça va jusqu'à, que ça peut aller assez loin, et j'ai précisé qu'il me semble qu'il y a des cas où véritablement on voit les sujets s'interroger sur la structure qui les détermine, ce qui est quand même assez fort, je trouve. Hein? Bon, je n'ai pas d'exemple dans ma pratique, pour l'instant en tout cas, de cas où j'ai vu se dégager un désir d'analyste, mais il me semble qu'il n'y a pas en principe, je vois pas d'impossibilité à la chose, mais enfin ça dépasse un petit peu, me semble-t-il, le cadre de, en tout cas, des questions sur lesquelles je me suis interrogée pour ce soir.
On tourne un peu tous les deux autour de la même chose, parce que finalement, comme tu disais, qu'est-ce qui fait que parler pour ne rien dire se transforme en parler pour dire? Il est probable qu'il y faut une intervention de l'interlocuteur, même si celui-ci n'est pas posé comme analyste pour un enfant aussi évidemment que ça. C'était la première question. C'était en fait se déprendre, hein, finalement. Finalement. L'idée que je m'en fais, enfin, c'est pas non plus une idée qui m'est totalement personnelle. Appuyée sur quelques citations que j'ai faites de quelques passages du séminaire, entre autres, c'est que au-delà de l'instauration du sujet supposé savoir, il est aussi en jeu quelque chose de... disons d'une division d'un sujet quant au savoir. Enfin, c'est un autre endroit, à mon avis. Et d'ailleurs, ça c'est une thématique qui est extrêmement présente tout le temps chez Lacan, par ailleurs. Et d'ailleurs, celle-là aussi dans des termes qui ne sont pas obligatoirement corrélés à celui de la névrose. Comme ça lui insiste, la thématique de l'horreur de savoir, enfin, par exemple, et puis la thématique archi-classique de la distinction, enfin archi-classique, archi rebattu, mais qui est quand même assez difficile, de la disjonction entre savoir et vérité. Tout ça, c'est des échos, me semble-t-il, de cette position qui peut-être fait l'analysant, ou en tout cas contribue à le faire, qui est cette position d'un sujet qui ne sait pas si ce qu'il désire le plus est de savoir ou de se déprendre de celui qui suppose à savoir. Voilà. Position très cartésienne par ailleurs, mais enfin ça c'est un autre problème.
D'accord. On va peut-être passer le micro à vous, si vous avez des questions à poser maintenant à Sol ou Frédéric.
Je voudrais vous demander à tous les deux, ça marche, oui. Je voudrais vous demander à tous les deux si une formule de Freud vous conviendrait, et qui est le malade ou le patient a toujours raison. Voilà une formule de Freud qui est rappelée par Louis Andrea Salomé dans le deuxième chapitre de sa fameuse lettre ouverte à Freud. Sa lettre, cette petite plaquette qu'elle avait dédiée à Freud pour son 75e anniversaire en 1931. Je vous la cite aussi parce que il y a quelques années, j'ai eu la surprise de m'apercevoir que c'était la première fois qu'une collègue analyste parlait de l'analysant. Elle parle du patient, de ce que Freud appelle le malade, en termes d'analysant dans ce texte. En allemand. Et c'est le même mot, mais avec un D à la fin.
C'est le substantif ?
Le substantif. Et donc, je vous le livre à titre simplement de remarque. Je ne sais pas si Lacan a lu ce texte, qui n'était pas traduit avant sa mort en français. Peut-être l'a-t-il lu en allemand. Il y a quelque chose au moins qu'il ait lu ce deuxième chapitre, parce que Freud aimait beaucoup ce deuxième chapitre. Il l'avait repris en 1933 de la lettre ouverte à Freud de Louis Andrea Salomé, son deuxième. C'est une petite plaquette en plusieurs chapitres. Pour son 75e anniversaire. Il l'a repris 2 ans plus tard, en 1933, dans ce qu'on appelait l'almanach de la psychanalyse. Il avait juste repris ce deuxième chapitre, et c'est très politique. Parce que la formule « Der Kranke hat immer recht », ça veut dire « le malade a toujours raison », décalque de façon hallucinante la formule clé des nazis « Die Partei hat immer recht ». Le parti a toujours raison. Et on est en 1933. Donc Freud prend ce petit texte et le met dans l'almanach en 1933, ce qui est évidemment un acte tout à fait saisissant. Donc je pense que Lacan a dû connaître au moins ce passage de la lettre de Louis Andrea Salomé. En tout cas, c'est la première fois que j'ai lu, moi, il y a quelques années, le mot analysant sous la plume d'un collègue.
Merci Bernard. En écho à ce patient, ou cet analysant qui a toujours raison, je rappellerai une autre phrase de Lacan qui va exactement dans le même sens, quand il dit que l'analyste n'a rien à redire à ce qu'apporte l'analysant. Autrement dit, au sens à ce que veut dire redire en français. C'est-à-dire considérer éventuellement que ce n'est pas la parole qu'il faudrait, qu'il devrait parler autrement, que, etc., etc. C'est important parce que si on tient ces deux phrases bien en tête, ça devrait nous garder de faire de analysant un terme normatif. C'est très difficile. Mais c'est... Alors, puisque je trouve que le métro était là, je continue. Je vous remercie, Sol et Frédéric, mais en vous écoutant, j'ai eu une sorte de surprise, voire d'inquiétude. D'inquiétude. Parce que je vais vous dire, quand on a choisi ce thème, j'avais bien le sentiment que c'était une question sur qu'est-ce que la psychanalyse en réalité. Bon, mais en même temps, je me suis dit, c'est quand même un thème un peu étroit pour toute une année. Et en vous écoutant, j'étais absolument saisie de voir qu'on peut tirer tout Freud, on peut tirer tout Lacan, les étapes de l'enseignement de Lacan, la multiplicité des formules. Parce qu'on a entendu tellement de formules déjà ce soir sur l'analysant. Que du coup, je mesure la difficulté dans quoi on s'est lancé. Bon, donc, voilà, bon. Alors, je voudrais dire un petit mot juste sur un point précis. C'est pas sur l'exposé de Frédéric et la question très pertinente de comment se situe l'enfant dans cette question, mais sur... comment le prendre? Oui, je pars de là. Le névrosé aurait une tendance naturelle au transfert. Voire. Le névrosé, il a une tendance naturelle à supposer le savoir à l'autre. Et le transfert, finalement, malgré beaucoup de phrases de Lacan qui pourraient faire penser que le transfert, c'est de supposer le savoir à l'autre, le transfert, c'est de s'apercevoir que le sujet supposé savoir, c'est l'analysant. C'est ce qui est absolument impliqué par l'écriture du transfert. Hein ? Le sujet supposé sous la barre, au signifiant de l'inconscient. Et c'est ce qui est tout à fait explicité par Lacan quand il dit le transfert, c'est de supposer un sujet au déchiffrage des signifiants de l'inconscient. Donc ça fait de l'analysant le sujet supposé savoir. Ce qui fait que, vraiment, moi je suis assez perplexe, ça fait longtemps que je réfléchis sur cette phrase de Lacan que vous avez citée, Sol, quand il dit « le discours analytique exclut celui qui n'est pas déjà dans le transfert, que suppose une formation de l'inconscient ?» Parce que, bon, si on prend le rêve comme formation de l'inconscient, ça veut dire que depuis l'Antiquité, tous les sujets sont dans le transfert. Puisque tous rêvent. C'est pas ça qu'il veut dire, c'est pas possible. Et donc, on peut prendre, là aussi, on peut prendre une définition restrictive ou une définition large. Et j'ai idée qu'il faut prendre la définition restrictive. C'est-à-dire qu'on est dans le transfert quand, d'une façon ou d'une autre, que ce soit une manœuvre de l'analyse ou de l'analyste ou autrement, celui qui vient prend l'intuition, la perception qu'il y a du savoir et qu'il est supposé, lui, à ce savoir comme sujet. Ce n'est pas la supposition de savoir de l'analyste. Ce n'est pas la projection sur l'autre, le transfert. C'est vraiment, prendre la... Ça va bien avec ce que disait Freud, croire à l'inconscient. Quand Freud dit le minimum, c'est de croire à l'inconscient, on peut prendre une définition forte ou une définition faible. Je crois qu'il faut prendre la définition forte. Croire à l'inconscient, c'est en effet avoir la dimension que c'est l'analysant le sujet supposé savoir. Voilà moi comment je prends un petit peu ça. Alors, évidemment, pour après passer à l'enfant, là, je déclare forfait. Je passe le micro à qui veut dire.
peut-être répondre entre-temps.
Répondre entre-temps parce que sinon on va perdre la...
Oh, non.
Là, ça va ?
Oui.
Oui, merci beaucoup Bernard. Je vais aller me chercher cette lettre ouverte affreuse que je ne connais pas. Et le malade a toujours raison, mais bien sûr, bien sûr. Moi, ça, je pensais que ce qui va dans le même sens, c'est la remarque de Lacan sur le fait que la résistance est toujours celle de l'analyste. C'est une autre façon, me semble-t-il, d'aborder la même chose. Alors, l'analyste n'a rien à redire, bien sûr, n'a rien à redire, absolument. C'est bien de le rappeler. Il redit souvent, il tique parfois, mais Lacan a bien insisté sur le fait que c'est l'analysant qui parle. Ça, il le dit vraiment sur tous les temps, de toutes les façons. Là, je me suis aperçue d'à quel point il insiste là-dessus en faisant un peu ce travail. Alors, c'est l'analysant le sujet supposé savoir. Oui, j'ai insisté là-dessus. Je trouvais la formule utile pour justement échapper à la question diagnostique. Hein? Par contre, j'ai buté avec la lecture de ce passage de télévision, être déjà dans le transfert. J'ai coupé la phrase là. Hein? J'ai coupé la phrase là. La suite, j'étais pas sûre. Il y a toute la référence. Bon, je fais une hypothèse qu'il y a celle que j'ai présentée. Bon, je vous remercie de la remarque que vous avez faite, de vous inciter d'une autre façon que je ne l'avais fait sur le fait qu'il y a du savoir et que c'est à lui le sujet que ce savoir est supposé. Donc, vous insistez sur le fait que ce n'est pas seulement, disons, du point de vue de l'analyste, mais pour l'analysant lui-même que ça doit apparaître en quelque sorte. Hein? Oui, oui. D'accord. Alors, Frédéric ?
Ben oui, mais... Zut. Merci aussi à Bernard Teboul, parce que moi non plus, moi je connais pas du tout ce texte, ni le chapitre 1, ni le 2, ni aucun malheureusement. Mais l'hypothèse, à mon avis, est tout à fait juste. Parce que quand Lacan parle d'analysande dans le séminaire, c'est suspendu en l'air. Il dit que c'est en anglais, mais il s'est rattaché à aucune citation de rien. Et ça pourrait très bien, sachant que, d'après si j'ai bien compris ce que tu as dit, c'est le même terme, strictement le même terme, à la lettre près en allemand et en anglais. Donc ça pourrait être un voyage comme ça. Et Lacan pourrait l'avoir trouvé. Ça pourrait être là qu'il l'a trouvé, en effet.
Il n'y a pas possibilité en anglais de dire analyser.
Non.
Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est pas un participe présent, justement. C'est ça la grande différence. C'est terrible, c'est un participe présent.
J'ai pas lu beaucoup de littérature anglaise, mais il y a analyzed, enfin, je sais pas comment on dit. C'est écrit tout le temps.
Non, comme adjectif, tu ne peux pas l'utiliser comme substantif. Mm-hmm. Ça n'existe pas en anglais.
Non. D'accord.
C'est pour ça que le terme courant, c'est analyse. Hein, et analyse. Hein.
Je ne sais pas s'il ne faut pas complexifier. Enfin, je suis désolé.
Complexifier.
C'est une maladie, vous savez bien. La formule de Colette Solaire, sur l'analysant. Non. Celle-là, c'est une formule de Lacan, alors. On n'y touche pas. Mais l'analysant, sujet supposé savoir.
Enfin, c'est le sujet supposé savoir.
C'est écrit dans la formule du français. Hein. j'y rajouterai quelque chose, mais bon.
Il y a un paradoxe, évidemment, puisque celui qui s'adresse à l'analyste, quelles que soient ses raisons, sa souffrance et tout, il s'adresse toujours sur le fond qu'il ne sait pas pourquoi il souffre de ce dont il souffre.
Absolument.
Bon. Et donc, il croit qu'il ne sait pas. Et on peut très bien décrire une entrée en analyse comme le virage qui le fait passer de ce « je ne sais pas » à « je commence à soupçonner que je suis supposé aux signifiants qui sont apparus dans mon symptôme ou à partir de ma parole sur mon symptôme. »
Oui, mais l'analysant commence au moment où... Enfin, il me semble. L'analysant commence au moment où non seulement il y a ce soupçon, mais il y a la question « qu'est-ce que j'en fais ?» Pas seulement la question de la localisation en tant que telle du savoir, disons. Savoir si le savoir est localisé chez l'analyste ou chez le sujet lui-même. Je pense qu'il y a aussi se rajoute la petite touche de... Qu'est-ce que je fais de ça?
Alors moi, je vais décomplexifier en lisant le titre « Qu'est-ce qu'un analysant ?» et en ainsi... Enfin, bien sûr, tout de suite, j'ai associé à la tâche analysante et j'ai été surprise qu'aucun de vous deux ne revienne sur le terme freudien de construction. Parce que si on a beaucoup insisté sur le transfert, à la fin, il y a construction en analyse. Et dans ma rapidité un peu sotte, peut dire que pour moi, la tâche analysante est une tâche, tu as dit élaboration, mais bon, il y a un travail de construction ou de déconstruction, ce qui effectivement fait dépasser la question diagnostique et la question naturelle ou culturelle, parce qu'à vrai dire, il y a aussi ceux qui sont culturellement poussés à la psychanalyse. Et je me dis que c'est quand même travail. Moi, je situerai le passage à l'analysant à partir du moment où il y a une élaboration, un début de construction, simplement. Voilà. Construction n'étant pas toujours de la même étoffe, justement. Après, effectivement, de quel tissu ou de quels éléments est constituée cette construction et quel est l'objectif de cette construction, à quoi sert-elle? Mais dès qu'il y a construction, il y a action, il y a ing, en, A-N-T.
Moi, je veux bien... Hein, je crois que je vois l'utilité du terme. Le problème que j'y verrais, l'objection, c'est que quand Freud l'utilise pour les constructions dans l'analyse, à vrai dire, si mon souvenir est bon, c'est à vérifier, c'est la construction de l'analyste. Hein, c'est là où justement le savoir manque, que l'analyste fait une construction, qu'il livre un analysant, qu'il accepte ou pas. Donc c'est plutôt côté travail de l'analyste là que côté travail de l'analysant. Hein? Pourquoi pas, oui. Oui. Oui, nous l'employons, oui.
En disant ce qui passe par la tête, en ne soustrayant rien, c'est le contraire de la construction. Donc, après, il y a des choses qui se déposent à partir de l'association libre, bien sûr, sinon ça tourne à vide. Mais le mot construction, le mot même, moi, je...
C'est pas par là que ça commence, en tout cas.
Oui, non, non. Enfin, c'est une question de vocabulaire, là, du coup, hein. Moi, j'étais intéressée par ce qu'a dit Sol en répondant aux questions d'Agnès, puisque c'était précieux. Sol a expliqué qu'elle s'est orientée au départ à partir de son expérience et de l'idée que parmi les personnes donc, que vous recevez, Sol, qui viennent vous parler, il y en a qui vous parlent, mais vous ne considérez pas qu'ils sont analysants. Et donc, peut-être ce serait intéressant de dire qu'est-ce qui manque pour dire qu'ils sont analysants.
C'est ce que j'ai essayé de faire. Apparemment, c'est raté. Donc, je reverrai ma copie avant publication.
Non, Sol, vous avez beaucoup parlé de l'analysant. Vous n'avez pas parlé du non-analysant qui est chez l'analyste. C'est ça que je voudrais entendre. J'ai bien entendu tout ce que vous avez dit sur l'analysant, mais sur celui qui est là et qui n'est pas analysant, il parle à l'analyste, vous n'avez pas... Enfin, ou alors ça m'a échappé.
Non, je n'ai pas développé ça. Oui, effectivement, le sujet, c'était qu'est-ce qu'un analysant.
C'est vrai, le sujet était qu'est-ce qu'un analysant. Là, en discutant, ça vous a intéressé, je ne sais pas trop pourquoi, parce qu'il vous semble que c'est l'expérience de chacun. Hein, je crois qu'en parlant avec les collègues, c'est un peu comme ça pour presque tous.
Se définit par son contraire.
Oui, absolument, c'est vrai, c'est vrai. Mais il me semble un fait qu'on reçoit, nous recevons des personnes qui viennent nous parler, et parfois même qui viennent parler longtemps, et que nous ne considérons pas comme des analysants pour autant. Hein? Bon, ensuite, il y en a d'autres. Qu'est-ce qu'ils font, hein? De les recevoir.
Non. De considérer qu'ils ne sont pas analystes.
Vous m'avez fait peur. Vous voulez dire que j'ai des analysants et que je ne sais pas qui ce sont des analysants, là? Vous allez fort, là. Non, encore une fois, la question que je me suis posée, c'est que parmi ceux que je pense être des analysants, encore une fois, pas tous ne sont névrosés. Donc, ce qui m'a tracassé, c'est plutôt ça. Hein? Parce qu'il me semble effectivement que on part dans la psychanalyse souvent et on a du mal à se départir de l'idée qu'il y a une sorte de consubstantialité entre la pratique de l'analyse et la névrose. Donc, c'est ce thème-là que j'ai essayé de traiter principalement. Hein?
Si je peux jouer, je veux insister quand même.
Hein. Insister.
Oui, mais c'est pas par rapport à votre exposé d'ailleurs. C'est la remarque que vous avez faite qui m'a amené l'idée. Je me souviens d'une ancienne conversation avec quelqu'un d'assez éminent qui arrivait tout juste à l'analyse, après quelques peu d'analyse personnelle, mais qui arrivait à vouloir être analyste et il travaillait dans un cartel. Et il travaillait dans un cartel où il y avait des analystes ayant une longue expérience, c'était des chevronnés déjà. Et il a été bouleversé par une conversation qu'il a écoutée entre deux analystes dans le cartel. Un des analystes parle d'un patient qu'il voyait depuis bientôt 8 ans. Et l'autre lui dit, mais est-ce qu'il est en analyse ? Est-ce qu'il est entré en analyse ? Et le premier analyste répond, ben, je ne sais pas, je n'ai pas l'impression. Et alors, ce jeune témoin était bouleversé à très juste titre, parce qu'il dit, mais enfin, il va voir un analyste depuis 8 ans, il se pense en analyse, et l'analyste, lui, ne pense pas qu'il soit en analyse. Il y a quelque chose de tordu dans l'affaire, quand même. Hein? Donc voilà, c'est...
absolument d'accord avec la phénoménologie de la chose, mais tu identifies analysant et question et question, voilà, question, la question, ma question, moi, c'est est-ce que ça suffit. Voilà. Voilà, dans le rapport aux parents qui est assez important dans la psychanalyse d'enfants, etc., il y a le stade de la question, il y a autre chose aussi.
On va continuer autour d'un verre. Hein.